Allez-y.
Alors, en introduction, on va voir qu'il se produit une inversion démographique récente et brutale. Je vais traiter en trois parties. D'abord, la démographie, ensuite les aspects sociaux et enfin les impacts économiques et financiers. Pour la démographie, on parlera d'abord de l'effondrement de la fécondité, puis du plafonnement de l'espérance de vie, enfin de la stabilisation de la population grâce aux migrations. Aspects sociaux, on parlera de la baisse de population active, ensuite de la vive croissance de la population âgée et de l'explosion de ses besoins, enfin de l'effritement du dynamisme des sociétés développées et de l'accueil des migrants. Partie 3, on parlera d'abord de l'évolution des emplois, ensuite des systèmes de retraite, enfin du financement de l'indépendance. En conclusion, le vieillissement est-il un défi ou une opportunité? Alors, introduction. La population mondiale est passée en deux siècles de 1 à 8 milliards d'humains. Elle a cru au rythme annuel de 1,8% de 1950 à 2000, essentiellement par baisse de la mortalité, puis ralenti à 1,22% dans les 20 premières années du siècle et 1% depuis. On verra une chute de la fécondité pour atteindre 8,16 milliards en 2024. Le scénario central de projection des Nations Unies table sur un maximum de 10,2 milliards atteint vers 2082 pour décliner ensuite. Six résultats importants ressortent de ce scénario. La population mondiale continue à augmenter au XXIe siècle, mais les taux de croissance varient considérablement d'une région à l'autre. 2. Les femmes ont moins d'enfants dans l'ensemble, mais les taux de fécondité restent très élevés dans certaines régions, Afrique subsaharienne et Inde notamment. 3. Les personnes vivent plus longtemps. On est passé de 64 ans en 90 à 77 escomptés en 2050. Mais celles des pays pauvres vivent encore 7 ans de moins, même si l'écart se réduit. 4. La population mondiale vieillit, les personnes de plus de 65 ans constituant le groupe d'âge dont la croissance est la plus rapide, on prévoit 2,2 milliards en 2100. 5. Un nombre croissant de pays se dépeuple, une soixantaine en 2024, notamment Chine, Japon, Corée du Sud, Russie. 6. Les migrations sont devenues une composante majeure de l'évolution de la population dans certains pays, compensant ou accentuant le solde naturel. S'il est un processus dont l'accélération est raisonnablement prévisible, c'est bien le vieillissement de l'humanité. La population mondiale n'a jamais été aussi jeune qu'il y a une cinquantaine d'années, soit environ 25 ans. Le taux de fécondité atteignait alors 5,4 alors qu'il est aujourd'hui de 2,3, approchant du seuil de renouvellement. L'âge moyen atteint 30 ans. Si en Afrique, l'âge moyen ne dépasse guère 15 ans, dans les champions de l'âge d'or, nous verrons Japon, Allemagne, Italie, il frôle 50 ans. La population âgée de 65 ans et plus en pourcent de la population totale est passée pour l'OCDE de 11,4 à 17,4 en 2020 pour atteindre environ 25 en 2050. Donc je ne commente pas le reste du tableau. Nous allons concentrer notre regard sur une quarantaine de pays à longévité élevée, économiquement développés selon l'ONU, où le vieillissement de population est plus marqué et son impact déjà visible. Ces pays regroupent en 2020 près de 1,2 milliard d'humains, 15% de la population mondiale. L'expression de bombe démographique, utilisée hier pour dénoncer l'accélération de la croissance démographique, l'est désormais pour attirer l'attention vis-à-vis du vieillissement rapide des populations. On est passé du baby-boom au papy-boom. En croisant les données démographiques, sociales et économiques, nous tenterons de mieux comprendre les principaux enjeux de ce vieillissement dans nos sociétés.
Oui, alors, vous reprenez le relais.
C'est ça. On va regarder les données démographiques, une évolution rapide. Dans l'effondrement de la fécondité et la chute de la natalité, ce phénomène est apparu au Japon il y a 50 ans. Le taux de fécondité y est passé de presque 4 enfants par femme en 1945 à moins de 2 à partir de 1974. Il chute à 1,2 en 2023. Dans l'évolution du nombre de naissances, on va voir qu'effectivement, d'une part, depuis les années 2004, on est passé de 1,1 million à un peu moins de 800 000, soit une baisse de 30%. Et pendant le même temps, les décès augmentaient de 1,1 à 1,6, soit une augmentation de 45%. Cette évolution s'est progressivement étendue à l'ensemble des pays développés, sous l'effet d'une part de l'évolution des mœurs et de la contraception, où cela a retardé la formation des couples. D'autre part, la chute de la fertilité et les préoccupations financières comme l'agrandissement du logement, les frais liés à la petite enfance tels que équipements et frais de garde, tous ces éléments ont conduit de plus en plus de foyers à retarder la création d'une famille. Après avoir baissé de 1 an entre 1950 et 70-75, l'âge moyen des femmes à la première naissance n'a cessé d'augmenter partout d'environ 1 an par décennie pour atteindre 30 ans en 2025. Les mêmes considérations ont eu pour effet une baisse très nette de la taille des foyers, le taux de fécondité passant en moyenne de 3,3 en 1960 à 1,5 en 2022. Dans plusieurs pays, il est même particulièrement bas. Ainsi, l'Italie et le Japon avec 1,2 million et surtout la Corée du Sud avec 0,8. La France a longtemps fait exception en Europe, en oscillant autour de 2 en 2006-2014. Pour chuter fortement depuis 1,66 en 2023, soit une baisse de 20% en 15 ans. Et si on compare avec la situation en 1960, on a une baisse de 40% en 60 ans. Regardons maintenant le plafonnement de l'espérance de vie et la réduction de l'espérance de vie en bonne santé. Le XXe siècle a été marqué dans le monde entier par des progrès de longévité considérables grâce aux progrès de la santé publique et de la médecine. Dans les pays à revenus élevés, l'espérance de vie à la naissance a augmenté d'environ 30 ans, soit 3 ans par décennie. En 2022, la plupart des pays d'OCDE dépassaient 80 ans. On arrive même à 84 pour le Japon, 76 dans les pays baltes. Toutefois, au XXIe siècle, dans de nombreux pays, des tendances nouvelles se font jour. On observe d'une part un net ralentissement de la dynamique de longévité, voire dans certains pays une réduction. Ainsi, aux USA, elle a diminué de 2,7 ans en 2 ans, en 2020-2021. du fait de la pandémie de Covid-19, de la crise des opioïdes, où la consommation a été multipliée par 24 et les décès par overdose multipliés par 5. Pour cause aussi de mauvaise santé, prévalence d'obésité, de diabète, d'hypertension, conduisant à une augmentation, une multiplication par 3 des crises cardiaques et des maladies de la circulation. Et enfin, autre paramètre, un système de protection sociale non généralisé. Constatant le grand âge est entravé par des conditions de vie dégradées et même des incapacités croissantes, de nouvelles statistiques ont vu le jour. En plus de l'espérance de vie à la naissance, on parle maintenant de l'espérance de vie à 60 ans. On trouve l'espérance de vie en bonne santé à un peu plus de 66 ans, sans incapacité à 75,5, sans incapacité forte à 79,6. Si on regarde la comparaison avec l'évolution de l'espérance de vie à la naissance, on voit qu'on arrive un peu sur un palier, en tout cas une inflexion de la courbe. Et alors qu'on voit cette inflexion des courbes de l'espérance de vie à la naissance, l'espérance de vie à 65 ans continue à progresser lentement, mais laisse apparaître une dizaine d'années en situation de dépendance. Et demain, toujours en France, l'INSEE estime que l'espérance de vie pourrait atteindre en fin de siècle 88,5 ans. C'est sans compter sur l'impact probable des contraintes environnementales, chaleur, pollution, de l'évolution des modes de vie, travail, drogue, violence et guerre. C'est ce qui est constaté déjà dans des pays à la longévité la plus élevée, comme l'exemple cité plus haut pour les USA. Regardons maintenant la stabilisation de la population grâce aux migrations. Nous avons vu que les naissances baissaient nettement, en deçà du taux de renouvellement des générations, qui est de 1,5 en dessous des 2,1 pour le renouvellement normal. Puis, que l'espérance de vie tendait désormais à plafonner vers 80 ans, et que ce qui augmente le flux de décès, comme cela apparaît très clairement dans ce qu'on a vu dans le cas du Japon. Le cas le plus spectaculaire est celui de la Corée du Sud, comparé à la France, où on voit dans le tableau que la Corée du Sud, qui était le plus jeune pays en 1950, a évolué très fortement en 2020, et les perspectives en 2050 laissent présager que la Corée du Sud sera le pays le plus vieux à ce moment-là. Alors que la France, qui était un pays relativement jeune en 1950, voit son évolution beaucoup plus modérée avec un équilibre des populations en 2020 et on devrait avoir la même chose en 2050.
Alors, c'est un petit peu démenti depuis 3-4 ans. Ça sera sans doute un peu moins beau que prévu.
Le déficit de renouvellement naturel est tel que la dépopulation de nombreux pays, comme le Japon, la Corée du Sud, devient spectaculaire et préoccupante. Au Japon, le solde naturel atteint 800 000 personnes, moins 0,6%, et en Corée, elle atteint déjà 0,36%. La population, qui devrait baisser d'environ 800 000 personnes par an au Japon, ne perd en fait que 500 000 personnes par an grâce à un solde migratoire important. Elle devrait néanmoins passer de 124 à 80 millions à la fin du siècle, et celle des Corées passer de 78 à 50 millions, soit une chute d'un tiers dans les deux cas. La baisse de la population, constatée dans de nombreux pays, est limitée par l'afflux plus ou moins important des migrants. Ainsi, l'Allemagne se caractérise par une dénatalité chronique depuis 1973, 1,46 enfants par femme, avec un solde naturel de 250 000, de moins de 250 000, soit 0,6% par an, avec 750 000 naissances et 1 million de décès par an. Malgré cela, La population totale est stable autour de 83 millions et pourrait le rester si les flux migratoires continuaient à croître. Il y a aujourd'hui 10,4 millions d'étrangers, soit 12%, un record en France, en Europe, pardon. La situation de l'Italie est voisine en termes de dénatalité. 1,2 enfants par femme, avec un solde naturel de moins 350 000 habitants par an, 750 000 décès pour 400 000 naissances. Mais, avec un solde migratoire de 100 000 par an, la population ne baisse que de 250 000 par an. Avec un pic à plus de 60 millions en 2014, elle pourrait chuter à 40 millions en fin de siècle. Il y a aujourd'hui 6,3 millions d'étrangers en Italie, soit 10,7%. La situation en France est moins critique. Fécondité moins faible, 1,68, et un solde naturel positif. Le solde migratoire est à 180 000 par an. Il y a aujourd'hui 5,6 millions d'étrangers, 8,2%. Mais la chute rapide de la fécondité, qui est passée de 2 à 1,62 en 10 ans, risque de menacer cet équilibre fragile. À côté de facteurs économiques, sociaux, environnementaux, les migrations prendront leur pleine place, interrogeront la cohésion sociale et feront monter les surenchères nationales, nationalistes et les tensions entre les collectivités humaines concernées. Nous évoquerons à ce propos la situation des USA, où ces tensions menacent l'accueil séculaire des migrants et la vitalité du pays.
Grand 2. Les aspects sociaux. Le monde du travail et les personnes âgées. 1. La baisse de la population active malgré le report de l'âge de la retraite. Japon, Europe, Corée. Nous l'avons vu en première partie, la population tend à diminuer dans la plupart des pays développés, ce qui se traduit d'abord par la baisse des effectifs scolaires et vieillit d'autant plus rapidement que les naissances se font rares. Le Japon est le plus vieux pays au monde, près de 30% des Japonais ayant plus de 65 ans, contre 20% en moyenne ailleurs. L'Italie atteindra ce niveau dans 10 ans, l'Allemagne dans la décennie suivante, la Corée vers 2050. L'ensemble des autres pays suivra au cours des années 60 et la France 10 ans plus tard selon les projections des Nations Unies qui estiment que le nombre des personnes âgées de plus de 65 ans doublera en 30 ans. Donc d'une part la population des pays développés va baisser, on voit la fourchette suivant l'évolution de la fertilité, donc il y aura de moins en moins de personnes en âge de travailler. On voit que dans les hypothèses défavorables, c'est une évolution importante. Bien entendu, ces faits induisent une diminution nette de la population en âge de travailler depuis 2010. Environ moins 0,6% sur la deuxième moitié du siècle. Ces tendances sont déjà constatées depuis 10 ans au Japon, moins 1% en moyenne, et en Italie, moins 0,5%. Ainsi, en Europe, cette part de population qui représentait 64% chutera à 55% en 2100, tandis que les plus de 65 ans passeront de 21% à 31%. Au mieux, le ratio actif sur senior passera de 3,4 à 2,6 sans prendre en compte l'allongement des études ni les incapacités précoces. Cela induira une baisse de la croissance d'au moins 1% en moyenne en supposant que la productivité se maintienne au même niveau, ce qui ne semble pas assuré, comme nous le verrons ensuite. Peut-on compter sur la transition écologique, voire l'intelligence artificielle ? Bon.
Point d'interrogation.
Exact. Bien entendu, un facteur peut nuancer ce pronostic inquiétant, l'évolution du taux d'activité des seniors, c'est-à-dire une population de plus de 55 ans. Dans 12 pays de l'OCDE, il baissait de 85% en 70 à 63% en 95, avant de remonter à près de 75% en 2020, et surtout, bien entendu, dans la population féminine qui est passée de 33% à 57%. Deux, vive croissance de la population âgée et explosion de ses besoins. France-Finlande. Considérons maintenant l'évolution de la population âgée de ces 40 pays. Nous sommes au milieu de la période d'évolution la plus rapide, comme le montre la courbe, à une augmentation de plus de 80% sur 40 ans, pour atteindre 324 millions en 2050, soit 27% de la population. Et plus de 75 ans auront cru de 130%, et plus de 85 ans auront plus que triplé. Les années de vie gagnées, dans quel état de santé? C'est bien sûr la question préalable. Or, la demande en biens et services de santé croît avec l'âge, ainsi que nous l'indiquent les mutuelles qui augmentent leurs tarifs selon l'âge du client. Ainsi, en France, en 2012, la DREES estimait la dépense moyenne par ménage, on voit qu'elle varie de 1300 euros à plus de 6 000 euros, avec un reste à charge qui triple. Mais on voit que la collectivité assume la plus grosse part, plus de 80%, essentiellement du fait des affections de longue durée. L'OCDE estimait dès 2013 que les principaux risques à la hausse des coûts de santé et de soins de longue durée sont liés à l'accroissement de la longévité et de la dépendance. Pourquoi maintenant ne pas consacrer une part de ces années de vie gagnée à une activité professionnelle? Si la santé le permet et que l'activité est compatible avec l'âge, la question mérite d'être posée. Sans effort soutenu de l'ensemble des parties concernées, le vieillissement exercera des pressions sur les dépenses sociales, freinera la croissance et les niveaux de vie et accentuera les tensions entre générations. Fidéliser les travailleurs en fin de carrière est donc un défi majeur. Ceci suppose d'abord de développer la formation continue au long et en fin de carrière, pour maintenir l'intérêt et la productivité, réduire l'obsolescence et favoriser les reconversions. Un effort particulier doit être fait en France, où 35% seulement des 55-64 ans reçoivent une formation annuelle, contre 55%. Ceci contribue à leur exclusion précoce. La Suède et surtout la Finlande ont des expériences transposables, donc je donnais une référence pour la Finlande, sont privilégiées. Outre l'accès aux soins de santé et à la formation, la pratique du sport, y compris sur les lieux de travail, l'implication dans la vie sociale et culturelle.
Regardons maintenant l'accompagnement des personnes âgées en perte d'autonomie. C'est la question cruciale de la qualité de vie à l'approche du grand âge. Avant, dans les sociétés traditionnelles, la cellule familiale élargie offrait un partage des rôles où les anciens trouvaient leur place avec des activités spécifiques telles que garde des enfants, potager, basse-cour, même si cette cohabitation non choisie s'avérait souvent lourde de tensions. Le maintien de l'autonomie se prépare en amont, avant et dès le début de la retraite qui se traduit très souvent par une chute de socialisation. Là encore, les pays nordiques offrent des modèles. Des régimes de retraite, sécurité sociale, assurant qu'aucun retraité n'est à subir la pauvreté. Des pouvoirs publics locaux créant des structures d'accueil et de rencontres, conseils, accès aux prestations, et offrant aux seniors des réductions leur facilitant l'accès aux transports en commun, aux équipements sportifs et culturels. Enfin, une vie associative riche leur offre de nombreuses opportunités d'événements sociaux, de mixité intergénérationnelle, de voyages collectifs et d'engagement bénévole. Quand vient la nécessité d'une assistance, selon la nature des besoins et le degré d'autonomie, il importe de favoriser le maintien à domicile. Il faut adapter le logement, cuisine, sanitaire, et l'aide à domicile offre des formules diversifiées. Attribution ou aménagement du logement, d'habitat communautaire étant encouragé, les tâches ménagères, les courses, ménage, cuisine et soins de toilette, les prestations à domicile, livraison, visite périodique, alerte, et des soins de santé assurés par personnel infirmier ou assistance psychologique. Mais vient un moment où le maintien à domicile s'avère impossible. Les pratiques sont ici variées avec trois modèles dominants en Europe. Les pays nordiques, grâce aux stratégies développées ci-dessus, qui avaient les premiers généralisé les établissements pour personnes âgées, ont pu ramener en 20 ans la part des plus de 65 ans dans ces structures de 8 à 4%, diminuée par deux en Suède, Danemark, Pays-Bas. En Allemagne et en France, comme en Europe en moyenne, on est autour de 4%. La Belgique fait exception et se maintient au-dessus de 6%. En Europe du Sud, les liens familiaux restent plus ancrés dans la tradition. En Espagne, ce taux est de 1,9% seulement, tandis qu'en Italie, il est de 2,7%, comme au Japon, où il tend à baisser. Un petit coup de pouce pour descendre un peu plus bas. L'évolution des configurations familiales aux âges avancés. L'allongement de la vie accroît les périodes... accroît les périodes vécues dans des formats familiaux diversifiés, tandis que la chute de fécondité réduit la taille des familles. Il y a plus de divorces, de cohabitations et de recompositions. Les ruptures et les remises en couple sont plus fréquentes à des âges avancés. Ces évolutions de structure familiale ont des implications lourdes. Elles influent sur le niveau de vie, les risques de solitude, l'entrée en institution, la mortalité et les relations entre générations. Les aides familiales et publiques peuvent se compléter ou se substituer. Cette diversification des structures familiales peut donner des sens à de nouvelles formes de solidarité, mais aussi d'abandon. Les conséquences peuvent varier selon les catégories sociales, le sexe, l'autonomie et autres sources d'inégalité parmi les plus âgés. Ceci pousse à repenser les formes de participation sociale des plus âgés, en termes de solidarité intergénérationnelle envers les proches, en perte d'autonomie, d'engagement citoyen, associatif et politique. Les besoins, mais aussi les contributions des anciens, doivent être connus et reconnus.
Effritement du dynamisme des sociétés développées et accueil des migrants. Tous les pays sont confrontés à une baisse rapide de leur population active. Nous l'avons vu ci-dessus. Ainsi, en moyenne pour l'OCDE, pour 100 travailleurs, 44 personnes âgées de 50 ans et plus ne sont plus actives. Ce nombre pourrait passer à 56 d'ici 2050. Le nombre d'actifs en Europe s'est réduit de près de 5 millions de travailleurs ces dernières années et la saignée ne fait que commencer. 35 millions d'Européens prendront leur retraite d'ici 2050, laissant derrière eux des pays moins productifs. La France devrait ainsi perdre 6% de ses forces vives de 20 à 64 ans, l'Allemagne 21% et l'Italie même 32%. En Asie de l'Est, la chute devrait atteindre 31% en Corée, et même près de 35% au Japon, pays où le chômage est le plus bas, 2,5%, et la productivité faible, emploi à vie, salariés âgés. Dans tous les secteurs, la pénurie de main-d'œuvre est critique. Agriculture, industrie, BTP, éducation et santé. Les jeunes sont vraiment en rupture avec la société traditionnelle japonaise. À quoi ressembleront les USA en 2050 ? Donc, je mentionne les études de Joel Kotkin qui met en avant les bénéfices du dynamisme démographique des USA. En 2050, le pays pourrait en effet compter plus de 400 millions d'habitants contre 340. Le vieillissement resterait limité grâce au maintien d'un taux de fécondité en érosion lente à 60 en 2024 et surtout de l'afflux de migrants, 1 million par an, dont 15% de Mexicains. En conséquence, en 2050, la classe d'âge de 15 à 64 ans pourrait croître de près de 40% et seuls 50 millions d'Américains auraient plus de 65 ans. Les USA vieilliraient donc beaucoup moins vite que la plupart des pays européens. On mesure là l'enjeu considérable des questions migratoires et de leur acceptabilité par les pays vieillissants. Cette vitalité démographique, si elle se maintenait grâce aux flux migratoires aujourd'hui mis en question, garantirait aux États-Unis le maintien de sa population active et de sa croissance. C'est une des explications de la très forte mobilisation contre les expulsions massives. Je crois qu'il faudrait parler de tout ça aux dirigeants américains. Qu'en est-il de l'accueil des migrants aujourd'hui ? Entre 2000 et 2024, le nombre de migrants dans le monde a cru de 175 à plus de 300 millions, plus 2,4% l'an. Ces chiffres sont considérables. Héritage du passé colonial en France, de l'attrait économique dans de nombreux pays, ou de la politique d'accueil, comme aux USA, ils permettent de comprendre l'importance des réticences et des débats qui se développent dans les populations concernées. Les principaux pays d'accueil sont USA, 52,4 millions, 15% de la population, Allemagne, 17 millions, 20% de la population, Arabie Saoudite, 13,7 soit 40%, Angleterre 11,8 millions 17%, France 9,2 millions 14%. Il renforce les craintes aux USA, celles des petits blancs, pourtant eux-mêmes tous issus de l'immigration. En Allemagne, ils nourrissent l'anxiété face aux menaces sur la prospérité. En Angleterre, ils ont nourri le Brexit, même si les flux n'ont pas tari depuis, en France et ailleurs, ils reflètent les craintes sur l'avenir et alimentent la rhétorique des extrêmes relayée par les médias, surtout certains médias. Pour autant, cet accueil de migrants est nécessaire. Le fait que les chiffres ne baissent guère quand les politiques restrictives sont mises en place en atteste. La stabilité des flux dément la perception d'invasion et nous le verrons en troisième partie, les déficits considérables de main-d'œuvre pour des emplois qui n'attirent guère les autochtones car pénibles, mal rémunérés, peu considérés, ne sauraient être pourvus sans recours. Enfin, il limite le vieillissement démographique naturel. Tout cela explique que les populistes en Italie et ailleurs ouvrent les portes en dépit de leur discours. Alors, maintenant, nous abordons les impacts économiques et financiers et leur prise en charge. Premièrement, évolution des emplois, activité des seniors, soins de santé de longue durée. Il faut tout d'abord noter que les variables démographiques affectent les comportements des agents économiques. 1. La baisse de la natalité développe l'activité des femmes en augmentant le taux d'emploi et en favorisant un partage plus équilibré des rôles. 2. L'allongement de la durée du travail favorise l'épargne en élevant le poids subjectif accordé à l'avenir et rentabilise l'investissement initial dans l'éducation. 3. L'immigration a des effets plutôt positifs sur le marché du travail, même si dans le débat public s'exprime la crainte que les migrants prennent la place des nationaux. On constate une tendance au prolongement de la vie active depuis le tournant du siècle dans tous les pays développés, mais selon un rythme variable, mesuré par la tranche d'âge des 50 à 64 ans, voire les plus de 65 ans. Dans le CDE, on est passé en 22 ans de 48% à 63%. Après, vous voyez que c'est assez fortement variable par pays, mais que la tendance atteint partout, presque un trimestre par an, même dans les pays où la cessation d'activité intervient tard. En Europe, où le taux d'activité des seniors était en 2022 près de 63%, les pays du Sud ont un taux sensiblement plus bas. En France, on observe la même tendance, mais le retard important sur l'Allemagne, 16% depuis 20 ans, ne se résorbe pas. Les perspectives d'âge de cessation d'activité sont actuellement les suivantes, sachant que dans certains des pays, des accords d'anticipation sont plus souples. Allemagne, 64,6 en 2022, 65,5 en 2030. En France, 62,2 à peut-être 63,5. En fait, il faut faire très attention parce que d'un pays à l'autre, les vécus sont très différents. En réalité, la seule chose qui compte, c'est l'âge moyen du cessation d'activité. Et on s'aperçoit que là-dessus, les écarts sont beaucoup plus faibles que sur les âges de retraite annoncés.
Officiel.
Les Allemands partent presque aussitôt que les Français, mais les retraites, ils sont beaucoup plus faibles. Il n'y avait pas une vanne.
Si, si, le tableau.
Oui, c'est important de commenter le tableau.
En dessous.
Oui, c'est en dessous.
En dessous.
Le tableau qui est en dessous. Contrairement aux idées reçues, les seniors ne prennent pas la place des jeunes. Ça, c'est un tableau très intéressant d'Eurostat qui montre qu'il y a quand même une corrélation très nette et que là où il y a un problème d'emploi des jeunes, il y a un problème d'emploi des vieux et réciproquement. Un enjeu important sera donc de maintenir en activité cette population plus âgée dans des conditions satisfaisantes, tant de santé que d'efficacité. On mesure sur cette courbe là que j'ai créée à partir des statistiques OCDE l'évolution du taux d'emploi des plus de 65 ans en moyenne dans l'OCDE, au Japon et en Europe. Le pays pionnier en matière de prolongement de la vie active a été la Finlande, qui a engagé des programmes gouvernementaux dès le début du siècle, car confrontée plutôt qu'ailleurs en Europe à un vieillissement de sa population et consciente que les coûts induits représenteraient un redoutable défi. Les activités sportives, nage, ski, course, vélo, sont favorisés tant en public qu'au sein des entreprises qui mettent alors à disposition des salariés des espaces dédiés, des équipements et des coachs. Au Danemark, la motivation a d'abord porté sur le manque de main-d'œuvre et la volonté de maintenir la croissance dans l'immigration. Des dispositifs de retraite progressifs sont conçus pour favoriser les personnes à capacité réduite de rester sur le marché du travail. La Norvège, plus flexible, permet jusqu'à 75 ans de combiner travail et pension. La Suède met l'accent sur l'importance de prendre soin de sa santé tout au long de la vie, meilleur déplacement pour vieillir, manger plus sainement, faire de l'exercice, stimuler son cerveau, comme au Canada, les troubles psychiques et psychologiques des personnes âgées sont pris en charge mieux qu'ailleurs. En France, afin de favoriser la croissance et le pouvoir d'achat, depuis 2010, les entreprises de plus de 50 salariés sont tenues légalement de mettre en place un plan d'action relatif à l'emploi des seniors. Ces plans mettent l'accent sur la formation, connaissance des nouvelles technologies, langues, maîtrise des risques et prévention de l'usure. Sur le soutien à la reconversion interne ou externe et sur la motivation du management dans son rôle de soutien aux seniors, tant en détection des signaux qu'en adaptation des missions.
Voyons maintenant l'emploi en soins de longue durée. Les emplois concernés recouvrent notamment les soins personnels pour les activités quotidiennes, se lever, s'habiller, manger, l'aide pour le maintien de l'autonomie, ménage, portage de repas, et soins médicaux infirmiers, prise de médicaments, traitement des plaies. Ils sont exercés à 80% par des femmes, soit au domicile des personnes âgées, soit dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, en France, les EHPAD. Nous l'avons vu dans la plupart des pays développés, d'ici 2050, plus du quart de la population aura plus de 65 ans et plus de 10% aura plus de 80 ans. Et si l'espérance de vie à 65 ans est stable à 19,5 années, celle en bonne santé n'est que de 9 ans et demi, ce qui laisse environ 10 ans de dépendance. Plus de la moitié des plus de 65 ans expriment donc des besoins en soins de longue durée. L'identification des personnes âgées en perte d'autonomie, environ 19% des plus de 65 ans en Europe, est difficile. Plusieurs indicateurs sont utilisés, notamment l'indicateur de limitation d'activité générale, prend en compte les personnes répondant fortement à la question « Êtes-vous limité depuis au moins 6 mois à cause d'un problème de santé dans les activités que les gens font normalement ?» L'enquête européenne de santé prend en compte les gens ayant des difficultés graves dans 5 activités de soins personnels et 5 activités domestiques. L'APA en France considère des limitations dans 10 critères d'activité physique et fonctionnelle. L'UE estime que le nombre de personnes nécessitant des soins de longue durée devrait passer de 31 à 38 millions en 2050. Trois raisons conduisent à penser que la demande en soins de longue durée va croître fortement. Le vieillissement de la population, documenté ci-dessus, les attentes plus grandes en termes de qualité de vie et de besoins nouveaux de services, informatique, Internet par exemple, notamment pour le maintien à domicile. Enfin, une part très importante de ces soins, très variable selon les pays, est actuellement assurée par les familles et pourrait décliner du fait de la participation croissante des femmes au marché du travail, de la réduction de la taille des familles, de la mobilité accrue des enfants et du vieillissement des aidants, conjoints, voire enfants. L'offre de soins de longue durée reste globalement assez peu développée et insuffisante dans les pays développés. En 2021, on comptait 5,7 emplois pour 100 personnes âgées de plus de 65 ans et plus, moitié à domicile, moitié en établissement. 12 en Europe du Nord et aux USA, 6 au Japon, 5 en Allemagne, 4 en Espagne. Depuis, ce nombre a baissé ou stagné dans la plupart des pays. Dans l'Union européenne, le secteur des soins longue durée structurés emploie près de 10 millions d'actifs. En France, en 2023, il représentait 1 100 000 d'emplois, 4% de l'emploi salarié. Et les besoins à l'horizon 2050 sont estimés au double, soit 367 000 par an, dont la moitié dans l'aide à domicile. Dans sa dernière parution en 2024 sur l'évaluation des besoins en compétences, l'OCDE estime que les professionnels de santé et de soins à la personne seront les plus recherchés. En France, ils viennent après la restauration et l'agriculture. Les difficultés de recrutement et de rétention, turnover, 70%. Ces difficultés sont liées aux problématiques liées à la manutention et les soins. C'est avant. Voilà, c'est bien. À un déficit de reconnaissance et d'image lié aux horaires et à la mobilité nécessaire. Un volume de candidatures très insuffisant au regard de la demande et des rémunérations trop faibles. En France, la réévaluation prévue de 16% est toujours en souffrance. Face à ce déficit d'attractivité, peu de pays ont mis en place des réformes visant à développer leur offre de soins longue durée. À peine la moitié a pris des mesures pour recruter des professionnels, ce qui risque d'être préjudiciable en quantité et pour la qualité des soins, surtout pour l'aide à domicile. Qu'en est-il des systèmes de retraite ? On note la montée en puissance de la capitalisation. Les systèmes de retraite reposent sur deux grands types de modes de financement. Avec la répartition, les cotisations des actifs servent directement à financer les pensions des retraités. Une fraction du salaire des actifs est prélevée, puis redistribuée sous forme de pension. En France, ce régime a été institué par les ordonnances de 1945. Depuis 20 ans, les actifs sont incités fiscalement à compléter par des plans d'épargne retraite, produits de capitalisation. Avec la capitalisation, les actifs versent des cotisations sur des fonds dits de pension qui les gèrent pour leur compte, ce qui peut être effectué dans un cadre individuel ou collectif. Le rendement dépend essentiellement du niveau des taux d'intérêt et détermine le niveau des pensions futures. L'épargne est capitalisée et restituée sous forme de rente ou de capital, voire les deux, lorsque le cotisant liquide sa retraite. En Europe, plusieurs pays, dont l'Allemagne, ont instillé une dose de capitalisation privée dans leur système de protection sociale, tandis que d'autres, comme dans la Suède, ont choisi de panacher les deux systèmes. Observer les pyramides des âges, présentées en page 5, nous permet de visualiser les problèmes sérieux auxquels sont confrontés depuis le début du siècle tous les systèmes de retraite, et surtout ceux fonctionnant par répartition. Le rapport entre le nombre d'actifs et celui des pensionnés. Avec une pyramide des âges à base élargie, comme en France en 1950, en Corée en 2020, ce rapport est évidemment favorable. Environ 5 dans les deux cas. Quand la base se rétrécit, le rapport se dégrade. En France en 2020, il est tombé à 1,7 et les estimations pour 2050 sont entre 1,3 et 1,4. Considérons la situation dans quelques pays caractéristiques. On voit que l'âge réel de retraite précède l'âge légal de 1,8, 3 en France, 5 aux USA. On voit l'OCDE, l'âge réel ici et l'âge légal avec cette différence entre les deux. Pour la part des transferts publics dans les revenus des plus de 65 ans, on peut noter surtout deux qui sortent de la statistique, de la moyenne. L'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne et les USA. Observons la typologie établie par l'OCDE. Contrairement aux idées reçues, la prédominance des transferts publics ne garantit pas un niveau de vie plus élevé aux retraités belges, par exemple, ici, et que pour autant une forte capitalisation ne garantit qu'aux nord-américains aisés une pension confortable. Ça n'est donc pas le système de retraite, mixte ou par capitalisation. Là, on voit ici le niveau de vie des plus de 65 ans. Eh bien, on a l'Italie et le Canada, USA, qui sont au même taux, proche de 90, avec des systèmes de retraite pour autant très différents. Pour des raisons différentes, le vieillissement va confronter tous les systèmes de retraite à des défis redoutables et croissants. Surtout pendant les décennies prochaines du rétrécissement de la base des pyramides démographiques. Pour ce qui concerne la répartition, base de l'essentiel des régimes de pension en France, les problématiques sont bien connues et nourrissent le débat public depuis longtemps entre les trois axes de solutions possibles et conjugales. Reporter l'âge de liquidation, ce qui repose sur le prolongement du maintien en activité du plus grand nombre et suppose une action déterminée dans ce sens, augmenter les cotisations, ce qui n'est pas envisageable aux yeux des chefs d'entreprise au titre du critère estimable de la compétitivité, ou alors réduire le montant de pension versée, et là encore à la majorité des retraités, ce qui est redouté par les politiques dont ils représentent l'électorat convoité. Pour ce qui a trait à la capitalisation, qui constitue une part significative des formules hybrides adoptées dans les pays comme les USA, la Suède, l'Australie, les enjeux sont moins perçus. Pour autant, ils apparaissent bien réels, voire tout aussi redoutables. Hypothéquer la croissance des décennies à venir, d'où la soutenabilité au regard des questions de climat, de pollution, de biodiversité et de conflits, qui posent question. Anticiper le maintien de la rentabilité des capitaux investis sur le très long terme, 50 ans, face à des choix de décideurs arbitrés souvent sur le court terme. Et enfin, compromettre la solidarité nationale, alimenter des tensions entre les générations, voire en leur sein, selon les choix posés, collectifs ou individuels. Or, toute institution financière est tributaire de l'équilibre entre les déposants et les créditeurs. Contrairement à la perception majoritaire, les deux systèmes sont confrontés à une réalité commune qui a trait à la nécessité de la confiance. Qu'il s'agisse d'un fonds public à gestion paritaire ou d'un fonds de pension à gestion privée, change peu de choses à l'affaire. et le crédit actuellement accordé au second tient pour beaucoup au fait que, créés récemment, ils sont en phase de dépôt. Dans les pays anglo-saxons où ils sont anciens, on peut constater leur vulnérabilité aux crises majeures récentes et leur dépendance de l'État en dernier recours. Un autre défi commun a trait à la perception par la société de la justice du système. L'accroissement des inégalités accentue en effet les tensions de toute nature, entre les couches sociales, entre générations, entre sexes. La tendance actuelle un peu partout est d'éviter les décisions collectives impopulaires, comme on le voit en ce moment chez nous, et de renvoyer au choix individuel les options de complément de revenus face à la cessation d'activité. Mais c'est refuser de voir que ce refus d'obstacle contribue à l'affaiblissement du vivre ensemble qui fait la force de la démocratie. En France, des voix s'élèvent en faveur d'un pilier complémentaire de capitalisation collective et obligatoire, venant pallier au décrochage probable à terme du niveau de vie des retraités, aujourd'hui voisins des actifs. Ce n'est pourtant pas une solution miracle, car les actifs devraient payer une double cotisation. Ce lourd fardeau risquerait de mobiliser des dépenses publiques additionnelles, effort qui s'ajouterait au remboursement de la dette, à la transition écologique et au réarmement. Il est donc prévisible que se développe plutôt l'évolution récente vers des mécanismes basés sur le volontariat type temps d'épargne retraite. Toutefois, les frais de gestion de l'ordre de 3% aujourd'hui grèveraient leur rendement. Une réforme du marché de l'épargne favoriserait cette tendance par l'encadrement, la concurrence, voire la création de fonds publics comme au Royaume-Uni. En tout état de cause, les 25 prochaines années seront marquées par une montée notable des frais liés à la dépendance, liés à l'âge, face à des niveaux de retraite en déclin sensible. Aussi, le financement de la dépendance, sans cesse repoussé, s'imposera dans le débat public.
Alors, le financement de la dépendance, un dossier en souffrance. Les dépenses de santé augmentent fortement avec l'âge, exprimées en pourcentage du PIB. Si elles sont stables autour de 4% jusqu'à près de 50 ans, elles passent dès 65 ans à plus de 10%, voire au-delà de 15% à partir de 75. L'OCDE a publié en 2024 une étude sur les coûts des soins pour les personnes âgées. Sont-ils abordables tant pour les seniors que pour les États? Il en ressort, un, que les dépenses publiques pour la retraite augmentent depuis le début du siècle, tendance qui se poursuivra pendant plusieurs décennies. Au niveau de l'OCDE, on voit qu'on passe de 6,6 à 8,5 et pour aller vers 10,5%. Deux, que les dépenses de santé augmentent sensiblement avec l'âge, mais restent abordables pour la plupart des personnes âgées, comme on l'a vu pour la France. Trois, que le coût total des soins de longue durée représente entre 1 et 6 fois le revenu médian national selon le pays, ce qui rend l'accès difficile partout, même si la moitié des pays disposent de mécanismes progressifs pour alléger le reste à charge. Le vieillissement qui s'accélère exerce une pression croissante sur les capacités budgétaires des États à fournir des soins de longue durée adéquats. La demande devrait en effet augmenter de plus d'un tiers dans les 25 prochaines années, ce qui pourrait multiplier les dépenses par 1,5 et représentait près de 2% du PIB, ce qui inclut charges de retraite, conduit à un impact global du vieillissement de plus de 4% du PIB en à peine 30 ans. Trois options se présentent, souvent mixées en proportions variables. Rechercher des sources de financement supplémentaires, préfinancement en Allemagne, assurance dépendance en Slovénie, taxe Zucman et ou assurance vie en France. Améliorer le ciblage des prestations et des services en Europe du Sud. Améliorer l'efficacité et contenir les coûts, prévention pour favoriser le vieillissement en bonne santé en Europe du Nord. Réadaptation à l'autonomie au Japon, Australie, Nouvelle-Zélande. Appel à la technologie, meilleure organisation des soins. Conclusion. Le vieillissement, défi ou opportunité. Économiquement et socialement, le vieillissement de la population, qui concerne, nous l'avons vu, tous les pays développés, a trois principaux effets. 1. Ralentissement de la croissance, donc moins de ressources. 2. Hausse des dépenses publiques d'au moins 5% sur la première moitié du siècle. 3. Risques sociaux et politiques tels que tension sur l'emploi et antagonisme accru. Confrontés à ces conditions qui évoluent très vite, tous les pays font face à des contradictions difficiles, également impopulaires, telles que augmenter les impôts, diminuer les retraites, faire travailler les seniors plus tard ou amplifier l'immigration, réindustrialiser le pays et ou accélérer la transition écologique. Pour des populations ayant connu depuis 2 à 3 générations que la croissance, l'État-providence et la paix sociale, même relative et internationale, on conçoit que ce changement soit d'abord perçu comme lourde menace et mal vécu. Pour autant, on peut entrevoir des synergies nouvelles, porteuses d'espoir. La chute de la natalité, positive en termes de développement durable, le retour à une croissance modérée, inférieure à 1%, considérée comme soutenable, et freinage incontournable de la mondialisation, de la surconsommation et des inégalités. On peut donc aussi voir dans ces évolutions des ouvertures vers un monde plus vivable. Il nous appartient à tous de créer du lien intergénérationnel autour de nos aînés et aux jeunes générations de trouver de nouveaux équilibres, sans doute assez éloignés des mondes d'hier, dont, à tort sans doute, nous gardons la nostalgie.
Mais écoutez, on va applaudir tous en cœur pour la qualité du travail qui a été fait. Hein, et ça représente des mois et des mois de lecture et de synthèse.
Oui, d'autant plus que c'est un moment, donc j'ai travaillé là-dessus de à peu près juillet l'an dernier à mai cette année. En fait, période où, compte tenu de l'actualité, il n'y avait plus beaucoup de parutions. Elle recommence un tout petit peu depuis 2 mois. Et une des grosses difficultés, c'est les statistiques qui sont souvent biaisées. Donc j'ai souvent eu recours, comme vous l'avez vu, à celle de l'OCDE qui, au moins pour tous les pays concernés, une quarantaine, sont plus homogènes que les autres.
Parce que dans ce travail, il y a vraiment un florilège de thématiques qui se croisent dans tous les sens, parce que tout se tient par, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Hein. C'est très difficile d'isoler un chapitre par rapport à tous les autres. Alors, je vais faire un appel à vos connaissances et surtout à vos réseaux. Est-ce que vous connaissez des gens à l'extérieur du Cénacle qui est ici, d'intellectuels que vous représentez tous, mes chers amis, patati patata. Est-ce que vous voyez, avec tout ce qui a été dit là, est-ce que vous connaissez des gens dans vos réseaux personnels qui sont capables de traiter en séance plénière tout ou partie de cette thématique? Je ne demande pas une réponse tout de suite, réfléchissez-y. C'est pas facile, hein? C'est pas facile.
Qu'est-ce que vous appelez en séance plénière, en conférence?
Oui, en conférence. Hein. Et que ce soit des personnes qui travaillent sur tel ou tel aspect de ce qui est présenté ici, qui disent ah ben moi je peux rentrer plus dans le cœur du sujet. Alors effectivement, où il y a une difficulté, c'est l'aspect franchouillard, où il y a toujours la virulence des débats actuels, on se regarde le nombril entre nous pour dire bah oui, il y a ceci, il y a cela. Bon, je ne veux pas faire de polémique sur les débats actuels, mais enfin, bon, ce n'est pas difficile d'en faire. Sur des sujets comme ça, de mon souvenir, les quelques fois où des gens de l'extérieur sont venus nous faire des exposés, ils étaient quand même fortement marqués idéologiquement, soit dans un sens, soit dans l'autre, mais dans une vision très franchouillarde. Alors que là, bon, vous avez fait le commentaire, vous avez trouvé des sources qui sont plus larges et où il y a eu un effort quand même d'homogénéiser un peu les statistiques.
Oui, puis on a un vécu familial qui est très international. Oui. Par exemple, ma fille aînée aux USA, je viens d'aller au Japon, et en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de discours biaisés, totalement erronés, sans fondement objectif, et il y a aussi beaucoup de leçons à prendre à l'étranger. Sans ça, on ne va pas y arriver.
Bon, est-ce que d'autres veulent faire des commentaires là-dessus?
Oui, un truc, hein, la dénatalité, comme vous dites, un peu, elle est mondiale, c'est ça qui
oui,
est
important. Oui, elle est mondiale.
Alors même en Afrique, ils sont passés de 7 à 4.
Oui, oui, oui.
Ils sont encore à 4,
oui,
mais ils viennent de 7.
Oui.
La Chine est en train de s'effondrer. Est-ce que vous disiez le jour, ils seront vieux avant d'être riches?
Oui, oui. Mais c'est pas moi qui ai inventé la formule. Hein. Je
crois que je l'ai trouvé bonne. Et tous les pays européens, États-Unis, Afrique, il y a une dénatalité.
Oui, alors là, j'ai lu un article que j'ai passé à François, là, dans le New York Times, qui date de 2-3 jours, là, qui dit qui se place du point de vue vraiment du couple. C'est-à-dire, les couples se forment moins pour des tas de raisons qui ont bien été listées, des raisons économiques, mais aussi le fait que l'envie. Dans tous les aspects du terme, d'avoir une relation durable entre un homme et une femme, baisse d'une façon généralisée, et au premier degré, c'est ça qui entraîne aussi le fait qu'il y a moins de couples et on fait moins d'enfants. Hein. Mais, parce qu'après, on voit tout de suite les arguments économiques qui ont été bien identifiés dans le travail qui a été fait, là, mais de dire, au premier degré, Par exemple, il donne un exemple, dans les pays, on va dire, la France et au nord, les naissances hors mariage se sont considérablement augmentées. Donc l'effet d'avoir un couple pérenne n'est pas un obstacle très fort au fait de la natalité. Ce n'est pas le cas dans les pays latins, on va dire, où il y a toujours une opprobre contre les naissances hors mariage. Voir l'Italie, voir la Grèce, des choses comme ça, en disant, ben non, on n'est pas marié, donc on ne fait pas d'enfant. Parce qu'il y a une pression sociale de la famille qui fait que, voilà.
Moi je pense, j'ai beaucoup lu sur ce sujet depuis longtemps, je pense que la question majeure, c'est une question de confiance en l'avenir.
Oui, c'est ça.
Parce que mettre en route un enfant, c'est a priori considérer qu'on va s'en occuper pendant un quart de siècle, et ça engage au moins 50 ans, et plutôt 75. Autrement dit, il faut avoir, c'est une question qui me taraude depuis longtemps, parce que moi, j'ai eu 5 enfants dans les couples, et j'ai quand même choisi d'en avoir 2 du second. Oui. Je me suis senti, déjà à l'époque, bête étrange.
Non, mais rassurez-vous, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. On ne veut pas faire... Chacun mène sa vie comme
non,
il
l'entend. Mais...
Oui, non, mais d'accord, c'est une responsabilité.
C'est pour ça que ça m'a tellement taraudé. Oui, oui. Pourquoi cette perte de confiance?
Moi, je pense qu'il y a quand même... Bon, il y a certes la peur de l'avenir, c'est évident, mais il y a quand même aussi une mentalité... Je vais peut-être choquer, mais je pense qu'il y a quand même une mentalité individualiste et égoïste quand même de chacun, et que chacun est dans sa petite vie, bien arrangé sa petite bulle, son petit sport, son petit... Et que chacun vit pour soi. Alors, il y a ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il n'y a pas que ça quand même. Je pense que c'est quand même la mentalité globale.
Pour étudier l'évolution de la société.
C'est un élément important.
Moi, j'en suis persuadée.
En entreprise, tous les ans, au mois de janvier, le directeur pouvait poser la question, madame, serez-vous libre cette année? Et le marketing qui n'a pas été a été licencié.
Oui, non, mais la peur des naissances, oui, ben là, il y a une pression dans l'autre sens pour éviter les enfants, effectivement. Mais bon. Et un élément qui n'a pas du tout été cité ici, c'est la baisse biologique de la fécondité, c'est-à-dire les taux de spermatozoïdes dans les biologiques, qu'on n'explique pas véritablement. On le constate.
Il y a la pollution,
oui, mais enfin, qu'est-ce qui fait que le taux de spermatozoïdes dans les semences baisse d'une façon régulière?
Il y a la pollution quand même.
Oui, mais enfin, les corrélations ne font pas c'est pas une preuve de causalité.
Il y a aussi la fertilité qui baisse avec l'âge. Je veux dire, si on
âge égal, on va dire. Âge égal, c'est
oui, comme ça. Les jeunes justement, envisagent d'avoir un enfant que plus tard.
Oui.
Donc la fertilité est moins importante, moins facile à 35 ans que 25 ans.
Hein. Bien sûr. Ça joue aussi.
Ben, le nombre de couples confrontés à l'infertilité.
Oui, ah ben, ça augmente très fortement.
Il y a la difficulté d'avoir des statistiques globales aussi. Parce qu'en France, on ne fait pas de statistiques selon l'origine ethnique.
Voilà, il y a cette difficulté.
Ça fausse beaucoup de choses. Moi, j'ai eu la chance dans une conférence rotarienne d'avoir un des dirigeants de l'INED nous sortir des statistiques interdites pour voir un peu comment s'orienter les choses. Et on a des grosses surprises à l'intérieur de cette évolution. Sans parler du grand remplacement, il ne faut pas pousser les choses au paroxysme. Il n'empêche qu'il y a des évolutions qui sont pondérables, au-delà de l'égoïsme.
C'est ce que j'ai évoqué, notamment à propos des USA.
Exactement.
C'est l'aspect communautariste qui fait que les comportements vis-à-vis de l'envie d'enfant, enfin l'envie d'enfant ou la réalité d'enfant, sont différents.
C'est force, hein,
oui.
C'est pas souhaité. Mais
on constate dans ce que vous évoquez que dans beaucoup de jeunes générations, de la deuxième ou troisième génération, ces réflexes, on va dire natalistes, pour ne pas dire plus, s'émoussent. C'est-à-dire, ils se collent avec le ressenti général de la population. Voilà. Les jeunes...
Je vais aller dans l'autre sens, parce que sinon, si vous me dites la même chose, c'est pas drôle. Les baby boomers, l'augmentation forte de la natalité a commencé pendant la guerre. 43-44. Donc ça contredit complètement ce que vous dites.
Oui.
Parce qu'il y avait complète incertitude, il y avait des fascismes partout, la situation était catastrophique, les hommes étaient partis faire la guerre.
Oui, j'en suis un témoin, puisque je suis né en 1943.
Oui, mais le boom a commencé à peu près là. Donc ça, c'est incompréhensible. Il y a un autre truc que je voulais dire tout à l'heure, qu'on va couper. Quand vous prenez une population vivante, c'est-à-dire animale, végétale ou n'importe quoi, dans un milieu fermé, que ce soit des microbes dans une boîte de pétri ou des bestioles dans un champ ou des fourmis, la population monte jusqu'à un certain niveau et après se stabilise. Bon, j'ai tout entendu ça. On atteint 10 milliards. Est-ce qu'il n'y a pas un effet collectif de sentir que ça suffit?
Si, ça suffit.
Après, ça ne dépasse pas la probabilité. Est-ce qu'il n'y a pas, on n'est pas arrivé à un truc qui fait que instinctivement, on limite le truc? Comme le ferait des microbes, comme le ferait des...
Oui, ben c'est l'effet de l'urbanisation avec des densités épouvantables qui fait que les gens ne font plus de gosses.
La vie a changé, hein, parce que justement, tu parlais des femmes, mais maintenant, dans un couple, les deux travaillent beaucoup, dans pas mal d'autres pays aussi. Oui. Hein, et puis, donc, quelle est la place de l'enfant?
Bien sûr.
Il faut quand même se poser la question. Et puis, cet enfant unique ou deux enfants, c'est essayer de faire le plus possible pour eux aussi, hein, je veux dire. Alors, il y a le côté financier hein, qui existe. Regardez les gens qui ont des problèmes pour se loger à Paris ou ailleurs, ça devient quand même un problème, non? Non.
C'est pas vrai en
Chine, ils n'arrivent pas justement après la politique d'enfant unique. Là, il y avait un grand article là,
ça ne redémarre pas.
L'argument qui est donné, c'est quand même la difficulté à vivre et donc à payer.
Madame Mélanie a mis des primes très généreuses pour elle et machin, mais elle n'y arrive pas non plus.
Ils ont mis en place des tas de choses sur le deuxième enfant, troisième enfant, etc. Et ça marche pas. Mais il faut dire qu'après, ils ont été complètement effarés par ce qui s'est passé avec l'enfant unique.
Oui, c'est ça aussi. Ça a duré quand même.
C'est affreux. Oui, c'est affreux, tout à fait. Donc, non, et puis on est dans une société de loisirs aussi. Les couples, ils ont envie de voyager, ils ont envie de faire des tas de choses. Un enfant, ça suffit, quoi.
À part la gestion des vieux, qu'est-ce que ça peut faire qu'il y ait une baisse de la natalité? C'est juste important parce que c'est compliqué à gérer tout ce que vous avez dit.
C'est la baisse de la population active.
Sur le plan économique, c'est pas l'optimum. Hein.
Mais bon, ça va être remplacé par l'IA.
L'inconvénient, c'est que on le voit, par exemple, on parle de la démocratie. Toutes les études disent que les jeunes ne votent plus, ça les intéresse plus, pour des tas de raisons. Mais aujourd'hui, pourquoi il y a une telle démagogie sur tout ce qu'on a entendu? C'est parce que les gens qui votent, c'est nous, c'est les vieux. Ben oui, donc les retraités n'y touchaient pas, et ne touchaient pas ma pension, et etc., etc. Donc, alors que... puis il y a une inculture économique générale de la population. Moi, je fais toujours des tests comme ça, à des gens que je ne connais pas. Tiens, expliquez-moi ce que c'est que la retraite par répartition. Ben, vous n'êtes pas déçu du voyage. Une personne sur deux ne sait pas ce que ça veut dire. Ne sait pas ce que ça veut dire. Hein ? Oui, ben oui, mais ça ne s'améliore pas. Hein ?
Synthétiquement, il s'est dit pourquoi y a-t-il une baisse de la natalité au niveau mondial. Oui. Premièrement, c'est l'éducation, surtout féminine, oui. Hein, qui fait plus les femmes oui. font des oui. études,
oui. Moins elles font d'enfants.
Moins elles font d'enfants. Oui. Hein, oui. Corrélation. Oui. Voilà. Ça, c'est la première chose. Ensuite, deuxième facteur, c'est la contraception. Oui. Deuxième facteur, c'est la contraception. Troisième facteur, c'est l'urbanisation. Quatrième, c'est le coût de la vie. Cinquième, des nouvelles valeurs et priorités. L'individualisme. Sixièmement, ce que vous évoquiez, les difficultés à former des couples stables. Septièmement, la transition démographique universelle. Oui. Voilà, comment l'INSEE analyse la baisse mondiale on l'a tous dit de manière
Non. Parce que les femmes, moi je sais, à partir du moment où elles font des études, elles veulent travailler, elles veulent réussir beaucoup aussi bien que les hommes.
Bon, le sujet est inépuisable, je pense. Enfin, moi je remercie encore François d'avoir fait l'effort, vous voyez la difficulté qu'il a quand même à s'exprimer, donc il s'en est bien sorti, hein, bravo, hein. Ça fait un exercice de rééducation, c'est ce qu'il m'a dit en aparté au départ. Je renouvelle un peu mon appel pour dire si vous connaissez des gens dans vos réseaux qui sont capables d'apporter une contribution à ce type de débat, ben on est preneur, bien évidemment. Et puis je rappelle que on avait prévu donc. Notre ami Didier Gros, là, qui va faire le truc sur l'Europe, eh ben, il n'était pas libre le soir comme on avait prévu de le faire. Donc, c'est reporté au 8 décembre, hein, où il ne viendra qu'une heure. Donc, essayez, s'il vous plaît, d'aller l'écouter, parce que ça doit être après-demain, hein, qui fait sa conférence. Essayez d'aller l'écouter pour capter un petit peu ce qui... dire, parce que l'Europe, c'est aussi un sujet inépuisable. Hein, voilà, bien évidemment. Bon.
On va faire des enfants.
Non, il y a du mal de fait. Mais...